Chers frères et sœurs, nous venons de l'entendre. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Or, lorsque Jésus monte sur une haute montagne, il voudrait nous rendre attentifs à un moment clé de sa vie, un aspect important de sa mission, attirer notre attention sur quelque chose qui est important pour chacun de ses disciples également, et donc pour nous aussi qui sommes ici. Pour nous qui sommes réunis en son nom et autour de lui, près de lui, présents au moment où sa parole est proclamée, autour de lui qui est présent dans la célébration de ses saints mystères, présent également, mais ne l'oublions pas trop souvent, présent également par sa grâce incompréhensible et malgré notre pauvreté en chacun de nous. De sorte que les événements de sa vie proclamés dans l'Évangile ne sauraient pas ne pas nous concerner tous, nous toucher tous. Non pas pour nous blesser, mais pour nous redresser, nous former, nous illuminer, nous consoler. Et donc, quand aujourd'hui Jésus demande à trois de ses disciples de l'accompagner sur la montagne de la Transfiguration pour en témoigner après sa résurrection, nous n'en sommes pas tenus à l'écart. Nous y sommes au contraire rendus présents mystérieusement, y participant grâce à la foi qui nous ont transmises et que nous avons accueillies de leur part. Mais la montagne de la Transfiguration, et cela m'a beaucoup intrigué ces derniers temps, n'est pas une réalité isolée. De fait, elle fait partie d'un ensemble. En parcourant un peu en vol d'oiseau, par exemple en s'aidant d'une concordance biblique, en traversant les pages que l'évangéliste Saint Matthieu nous a léguées comme son héritage le plus précieux, on peut se rendre compte qu'il semble vouloir donner à son évangile comme un arrière-plan très discret en mentionnant plusieurs montagnes qui sont autant de témoins silencieux de ces grands événements de la vie de Jésus dont l'enjeu n'est autre que notre salut. Voici très succinctement la liste de ces montagnes. La première, l'évangile de dimanche passé l'avait déjà évoqué, et celle qu'on pourrait appeler la montagne de la troisième tentation et de laquelle Jésus est sorti vainqueur en refusant absolument une domination sur le monde que Satan lui proposait au prix du reniement de Dieu. À la suite de son combat au désert, le cheminement de Jésus nous fait parvenir à trois autres montagnes. D'abord celle que j'aimerais nommer la montagne de l'enseignement, où Jésus nous révèle le chemin du vrai bonheur et de la nouvelle justice, le chemin de la miséricorde qui nous rendra semblables au Père. Deuxièmement, c'est la montagne de la prière nocturne où il nous est donné d'entrevoir quelque chose de l'intimité indicible de Jésus avec Dieu son Père. Et il y a la montagne que je nommerai celle des guérisons, où le Christ nous révèle son immense bonté et miséricorde à l'égard de tous les pauvres et de tous ceux qui, si souvent et si facilement, sont délaissés par nous les bien portants. Enfin, il y a encore trois autres montagnes de très grande importance et qui se suivent dans leur déroulement historique de très près. Celle que l'Évangile vient d'évoquer, la montagne de la Transfiguration, au cours de laquelle Jésus apparaît à Pierre, Jacques et Jean comme entièrement habités par la lumière divine, comme totalement un avec la lumière divine, et où la voix du Père l'atteste comme son Fils bien-aimé. Mais la marche à travers les jours qui préparent Pâques nous fera bientôt arriver au moment où nous accompagnerons, contemplerons et adorerons Jésus se rendant sur une autre montagne où tout semble s'écrouler. Le mont des Oliviers, la montagne de l'angoisse qui embrasse toutes les angoisses et où Jésus entre dans sa passion rédemptrice. Mais il est clair, saint Matthieu ne veut pas terminer son évangile sans mentionner une dernière montagne et à laquelle nous serons bientôt conviés, la montagne de la dernière apparition de Jésus ressuscité. Vous avez compté sept montagnes, sept événements à travers lesquels Jésus nous apporte le salut de Dieu. Nous pourrions donc dire une plénitude d'événements salvifiques, des événements qui sont liés intimement entre eux et dont chacun nous fait saisir un aspect du mystère de Jésus, nous ouvre à une plus profonde communion avec lui. Dès lors, il est clair que le mystère de la Transfiguration que nous célébrons en ce deuxième dimanche de carême n'est pas une petite anecdote isolée de la vie de Jésus. Elle fait partie de tout son cheminement. Elle fait partie en même temps de tout le cheminement de ses disciples, ce cheminement qui consiste à être introduit de plus en plus dans la connaissance du mystère du Christ, dans la connaissance du mystère de sa divinité, le mystère de son être un avec le Père. Mais cette connaissance, dans la mesure où nous l'accueillons en notre cœur, ne reste pas du tout une affaire intellectuelle. Elle comporte au contraire sa propre dynamique et tend à susciter en nous une nouvelle réalité, à savoir notre propre transfiguration. Ou, pour reprendre le vocabulaire qui provient du texte grec de la Bible, notre propre métamorphose, notre transformation intérieure, opérée par l'Esprit Saint et avec notre consentement, notre propre conformation à Jésus, le Fils éternel. C'est ainsi qu'il nous sera donné de devenir à notre tour les témoins de la parole du Père parvenu à nos oreilles et à nos cœurs, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le.